Donc, en effet, je suis directeur de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et même si j'ai une formation d'économiste, j'ai essayé de faire une présentation interdisciplinaire. Et c'est une recherche qui touche un peu à la sociologie de la science, comme c'est pratiqué au GIEC. Avec tout le respect que je dois aux spécialistes de la discipline, puisque quand on fait de l'interdisciplinaire, évidemment, on n'est jamais le spécialiste du sujet. Donc, pour situer d'où je parle, donc j'ai participé au GIEC, au 4e rapport, au 5e rapport, plus particulièrement dans le groupe 3, et dans ce groupe, plus particulièrement sur l'incertitude. Et donc, j'ai fait une petite recherche avec des co-auteurs on a regardé le contenu des rapports, le vocabulaire utilisé et les diverses notes qui ont été produites dans l'IPCC. Et donc, je vous propose de discuter les pratiques de l'incertitude à l'IPCC autour de deux instruments qui sont le vocabulaire harmonisé pour parler de l'incertitude, dont on a déjà parlé ce matin. Et le deuxième instrument, c'est les scénarios qui sont produits par le GIEC, qui est une façon de prendre en compte l'incertitude. Donc pour la première partie, en ce qui concerne la note de guidage sur l'incertitude, donc c'est un document qui est disponible sur Internet, dont la lecture est fortement recommandée aux auteurs du GIEC, et plus particulièrement aux auteurs du rapport de synthèse. C'est une méthode qui vise à harmoniser à travers tout le groupe de travail, et même à travers les trois groupes de travail du comité, les pratiques de l'incertitude. Et donc c'est un peu une gageure de mettre au même ordre toutes les approches de la science, avec des approches expérimentales par nature, comme par exemple en agronomie, des approches qui sont expérimentales mais qui se trouvent que, comme ils étudient le climat, finalement c'est assez difficile d'avoir des expériences. Et puis des approches de sciences sociales et d'économie. Et donc, il persiste des différences entre les groupes, et le processus représente quand même un effort intéressant et peut-être même unique pour mettre noir sur blanc comment doit fonctionner un panel d'experts sur un problème très important. C'est un effort d'autant plus unique qu'il a été éprouvé par les pairs, c'est-à-dire que revu à chaque rapport de l'IPCC, il rouvre la discussion sur les guidelines, et en plus chaque rapport de l'IPCC étant largement critiqué par les médias et par les politiques, eh bien, on peut juger si les guidelines ont été efficaces ou pas. Donc pour commencer, comment ça s'est passé, le processus? Eh bien, au premier rapport du GIEC en 1990, il n'y avait pas vraiment d'harmonisation sur l'incertitude. Alors tout l'enjeu du premier rapport, c'était de mettre en place le problème. Et donc les stars, c'était vraiment le groupe de travail, le premier groupe de travail, les climatologues, pour dire attention, il y a un changement climatique. Et en même temps, les climatologues, ils n'ont pas forcément les meilleurs liens ils n'ont pas forcément suivi une tradition d'analyse de l'incertitude et de communication scientifique. Donc par exemple, il y a des mots comme prédiction qui sont passés dans le rapport, qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Ils avaient une perspective subjective. Ils ont donné des certitudes, des degrés de confiance, mais même si ce n'était pas quantifié ou formalisé par les processus de d'élicitation des opinions d'experts. Il n'y avait pas de coordination entre les groupes de travail. et ni d'effort de quantifier l'incertitude de façon systématique dans les deuxième et troisième groupes. Au deuxième rapport, bon là tous les groupes de travail avaient essayé de faire une approche rigoureuse de l'incertitude, mais elle était différente des trois groupes de travail. Et donc cette différence, elle s'explique assez naturellement par la nature même des disciplines qui sont mises en œuvre dans les groupes de travail. Puisque le groupe 1, donc c'est des sciences plus de la nature. Donc, ils ont une approche où ils regardent l'incertitude comme étant l'erreur, c'est-à-dire une information incomplète sur l'état du monde, mais qui pourrait être corrigée quelque part. L'incertitude du groupe 3, par exemple, c'est plus les sciences humaines et les sciences sociales. Et dans le groupe 3, on parle de politique et de choix. Qui sont pas de même c'est pas de la nature de la même c'est pas de l'incertitude de la même nature que l'incertitude purement physique. Donc à l'issue du deuxième rapport, il y a eu un besoin, la reconnaissance d'un besoin de coordination. Et donc c'est là que les lignes directrices ont été mises en écrites pour la première fois et ensuite révisées. Au début de chaque rapport d'évaluation, il y a un séminaire dans lequel on évalue et on discute. Enfin, les experts évaluent et discutent les lignes directrices. Et donc, ce sont des séminaires qui incluent des spécialistes, par exemple, de la communication du risque, des spécialistes du risque et de la politique, des spécialistes des comités d'experts, justement. Et donc, par exemple, quand on dit « likely », quand l'IPCC utilise le mot « likely », derrière, il y a eu des... l'IPCC a pris en compte le fait qu'on sait que les gens ne vont pas interpréter ce mot de la même façon. Parce qu'il y a eu des études, justement, on a été voir est-ce que les gens interprétaient « likely » de la même façon. Est-ce que le fait qu'ils aient lu la note en bas de page, ça change ou pas? Mais bon, même si ce n'est pas une solution très satisfaisante, comme on l'a dit ce matin, ça reste quand même le mieux qu'on a trouvé. Et donc, le processus qui est prescrit aujourd'hui, et donc il s'applique aux résultats clés du rapport d'évaluation, et même plus particulièrement du rapport de synthèse. Donc c'est un processus où on demande aux auteurs, premièrement, de regarder sur quoi ils s'appuient pour annoncer leurs résultats. Donc tout ce qui était après likely, low confidence, tout ça qu'on a vu ce matin. Maintenant, il faut quand même regarder d'où ça vient. Est-ce qu'il y a 10 articles qui disent la même chose ou pas? Bon, est-ce que c'est de la science robuste? Alors si c'est pas le cas, donc on part à droite dans l'organigramme là, et on va pas utiliser de vocabulaire plus spécifique. Enfin, on va pas parler de niveau de confiance quantifié. Bon, s'il y a quand même plusieurs études, un nombre suffisant d'articles publiés, après on peut essayer de se mettre d'accord sur un niveau de confiance. Sur les résultats. Et s'il y a vraiment de l'information, des études probabilistes ou de quelque nature que ce soit des natures probabilistes objectives, fréquentielles, ou bien des travaux d'experts, on peut parler de probabilité. Donc maintenant, on va regarder quelles sont les trois cases bleues que l'IPCC prescrit. Donc d'abord, si on n'a pas assez d'informations, on va se placer dans ce tableau-là, qui est, comme c'était dit ce matin, un tableau à deux axes. Le premier axe, c'est enfin, le premier axe horizontal, c'est la, un peu la, la quantité d'informations, la quantité de preuves, si on veut. Et le deuxième axe, l'axe vertical, c'est est-ce que les preuves vont dans le même sens. Donc, si vous voulez, le, la, la quantité de preuves, il s'agit de preuves indépendantes, évidemment, de sources d'informations indépendantes. Donc, l'idée, c'est de regarder, est-ce qu'il y a des... Bon, par exemple, en écologie, des modèles, plusieurs sortes de modèles, donc les modèles fonctionnels, des modèles de simulation, des modèles basés sur les bilans énergétiques, ou bien en climatologie, à partir des lacs, à partir des glaces, à partir des arbres. Donc, s'il y a plusieurs sources d'informations, et évidemment, si les sources d'informations convergent, c'est quand même plus robuste. Donc, le GIEC ne prescrit pas au groupe d'auteurs qu'est-ce que un nombre suffisant de sources d'informations. Donc, puisque on estime que c'est pas possible, ça dépend des disciplines. Et c'est à chaque groupe d'auteurs de faire son, son jugement en fonction de, des pratiques disciplinaires. Alors, un journaliste de qualité dirait qu'il faut au minimum deux sources d'informations indépendantes et que ça suffit. Et on peut espérer que les scientifiques en exigent plus. Par exemple, en sciences sociales, on exige de croiser les, méthodes, les approches, donc des approches par entretien, des approches par dépouillement de journaux, des approches par participation, jusqu'à ce que le, on estime que jusqu'à ce que l'observateur s'aperçoive qu'il n'appartient, il n'apporte plus d'informations, enfin il reçoit plus de nouvelles informations par ses différentes sources d'enquête. Et donc le graphe montre qu'il y a un dégradé, c'est-à-dire que c'est flou, la différence entre le low agreement limited evidence et le high agreement robust evidence. Et là, sur le côté, ils mettent une échelle de confiance qui va être quantifiée derrière, si on peut. Donc, si on n'est pas dans la case en haut à droite, on ne va pas pouvoir aller bien loin, donc on pourra se limiter à utiliser ces deux mots, un jugement de concordance et un jugement de quantité de la preuve. Et donc ce qui est nouveau dans les lignes directrices pour le cinquième rapport, c'est que les groupes d'auteurs doivent absolument utiliser ce tableau avant de sauter aux probabilités. Donc, avant de se dire d'accord, on va faire un jugement d'expert quantifié, on a une bonne confiance, et bien on regarde, est-ce qu'effectivement, il y a suffisamment de données et de preuves dans la littérature pour le dire. Donc ensuite, quand on a décidé que finalement il y avait pas mal de preuves un peu convergentes, enfin plutôt convergentes, mais que le résultat était quand même pas très précis, donc on peut descendre sur le deuxième niveau de précision, si vous voulez, du résultat, c'est-à-dire de dire low level of confidence, medium level of confidence, high level of confidence. Et donc ça, c'est une échelle qualitative de confiance dans le niveau de jugement des experts. Et là, le fait que ce soit qualitatif, ça corrige un peu un défaut des lignes directrices du quatrième rapport, où c'était quantitatif, et donc c'était exprimé en termes de probabilité subjective, qui n'était pas... théoriquement, ça tenait pas la route pour des épistémologues ou des gens qui avaient. Enfin, si on avait réfléchi au système de communication et d'incertitude. Mais en même temps, comme ces lignes directrices, elles sont produites par des. Enfin, c'est le résultat d'un processus historique et qui a été négocié. Donc, voilà, ça ne peut pas être parfait du premier coup, quoi. Mais là, le fait que ce soit qualitatif, c'est quand même une amélioration par rapport à la version du quatrième rapport. Et ensuite, alors si on a vraiment, si on est dans le niveau supérieur de confiance, et bien là on peut utiliser des probabilités, à condition que la littérature qui est analysée par le GIEC, le groupe d'experts, elle est donnée des probabilités. Donc il s'agit pas, c'est pas, il appartient pas au groupe d'experts de sortir des probabilités du chapeau. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on a des intervalles de probabilité. Et donc, comme le professeur Horry disait tout à l'heure, on est sur un système avec des probabilités ambiguës. Enfin, je préfère appeler ça des probabilités imprécises. Ou bien, vous avez aussi dit des probabilités floues. Enfin, un système flou tout à l'heure. Donc, bien entendu, si la littérature converge sur des intervalles de confiance ou des chiffres de probabilité encore plus précis, c'est très bien. On peut les utiliser. Mais ce n'est pas nécessairement le possible et ni le but recherché. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce processus qui a pris depuis 1990 quand même 22 ans. Comme les révisions entre la version des guidance notes pour le cinquième rapport et le quatrième rapport sont quand même assez mineures, donc quelque part ça a convergé. Et donc ça représente une approche standard du traitement de l'incertitude en sciences, enfin du moins dans un panel interdisciplinaire. Toutefois, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, c'est vraiment l'incertitude vue comme une erreur, c'est-à-dire l'incertitude qui n'est pas une construction sociale au sens où on a le problème des tabous, les problèmes de l'incertitude stratégique où on essaye de ne pas parler de certaines choses à l'ennemi ou à des pays qui sont considérés comme ayant des intérêts divergents. Donc ça reste des lignes directrices pour une approche, si vous voulez, scientifique d'incertitude, mais pas au sens scientifique comme on essaie de le faire dans un GIEC, pas dans un GIS interdisciplinaire, mais plus scientifique au sens des sciences dures. Et par contre, là, l'innovation par rapport à ce qui pouvait être vu comme étant l'état de l'art avant ces lignes directrices, c'est l'utilisation des probabilités imprécises et le fait qu'on ne demande pas des probabilités mais qu'on se satisfait pleinement de bornes sur les probabilités. Donc au-delà, donc dans le cinquième rapport du GIEC, il commence à y avoir plus de discussions de la littérature sur la gestion sociale de l'incertitude, donc le risque perçu par exemple, puisque c'est un problème de plus en plus important pour la mise en place des politiques de transition énergétique, donc avec la psychologie sociale, la psychologie du risque individuel. Et après, finalement, la guidance note, elle apparaît comme une procédure pour assurer la qualité d'un système de production de la connaissance, puisque l'incertitude, si on le retourne, finalement, c'est l'inverse de la connaissance. Et donc, à travers les notes sur l'incertitude, on a par exemple vu apparaître une nécessité de traçabilité. Donc l'idée que le groupe d'experts, il doit donner des références, il doit pouvoir mettre des références derrière chaque résultat clé. Donc, puisque au moment où il évalue la quantité de preuves et leur concordance. Et donc ça, c'est une procédure de qualité assez classique, la traçabilité. Après, il y a eu d'autres notes directives au GIEC, donc qui sont un peu similaires à celles sur l'incertitude, mais donc par exemple, il y a eu des directives sur la communication avec les médias ou sur la gestion des conflits d'intérêts. Il fallait déclarer les auteurs étaient. On a demandé aux auteurs de déclarer leurs conflits d'intérêts potentiels, justement afin de pouvoir renforcer la confiance dans les résultats. Et ça, c'était pas donc la gestion de l'incertitude telle qu'elle est dans le rapport, mais la gestion de l'incertitude telle qu'elle arrive au final dans les politiques. En deuxième partie, je vais parler des scénarios. Donc, c'est l'autre façon d'appréhender l'incertitude. Donc, pour placer l'approche des scénarios, on va repartir un peu loin. On va repartir du modèle de décision classique en économie. Donc, une façon de voir l'incertitude, c'est de dire que on a une distribution de probabilité sur les 5 minutes, ok, sur les états du monde possibles, et on considère en moyenne qu'est-ce qui serait le mieux de faire. Et comme on a une fonction d'aversion au risque, ça permet de représenter diverses approches de l'incertitude. Et c'est l'approche standard en économie, mais elle est tout le temps remise en cause parce que elle n'est pas très appropriée pour le long terme. Donc il y a eu des controverses sur l'actualisation. Elle est limitée quand on essaie de prendre en compte les risques catastrophiques. Donc il y a eu des controverses avec Weizmann, par exemple, sur les risques catastrophiques. Et le fait que l'économie et ce genre d'approche ne peut pas le représenter. Il y a aussi des controverses sur la portée et la signification de ce genre d'approche. Est-ce que c'est une approche normative ? C'est bon. Alors déjà, on sait que les gens ne décident pas comme ça pour la grande majorité des choses. On sait aussi que les politiques ne prennent l'avis des experts que comme un des inputs parmi beaucoup. Mais après, même parmi les économistes, il y en a qui voient la maximisation de l'utilité comme étant une façon de calculer un équilibre de marché. Donc c'est juste quelque part un truc pour calculer une économie dans laquelle personne ne gaspille rien, ce qui est quand même un état désirable. Et il y en a d'autres qui pensent que, et qui soutiennent que c'est vraiment la façon dont devraient être prises les décisions avec du calcul économique et de l'évaluation des choix. Cela dit, même les modèles intégrés classiques qui sont basés sur la maximisation de l'utilité, ils utilisent d'autres formes d'analyse de l'incertitude, comme l'analyse de sensibilité, il y a des variantes du modèle, et ils construisent plusieurs scénarios du modèle. Donc ça, c'est la remise en cause en pratique, la remise en cause en théorie. Donc comme la communication précédente l'a dit, quand on a des probabilités qui sont imprécises, il faut essayer de faire de l'optimisation robuste ou de la décision robuste. Donc là, si on a par exemple une probabilité qui est imprécise, après si on fait la moyenne elle va être aussi imprécise, ça va faire un intervalle. Et donc, comment est-ce qu'on peut comparer deux intervalles? Par exemple, si on a un projet X qui est très incertain, donc qui peut avoir des conséquences assez mauvaises, mais aussi des conséquences assez bonnes, comment est-ce qu'on le compare avec un projet Y sur lequel il y a moins d'ambiguïté et qui marche mieux dans le pire des cas, mais qui marche moins bien dans le meilleur des cas? Et donc, il y a beaucoup de recherches sur les critères de décision dans ce cas-là, qui partent du principe que justement il n'y a pas de probabilité sur ces intervalles-là. Mais bon, aujourd'hui, on n'a quand même pas de formalisation économique du principe de précaution, puisque c'est bien de ça qu'on parle. Et donc, je propose de laisser le principe de précaution comme étant un principe légal, de ne pas chercher à lui mettre un principe, une théorie économique derrière. Et de considérer que le principe de précaution est satisfait si le décideur a utilisé une méthode de décision qui prend en compte l'incertitude scientifique. Même si à l'issue de l'analyse, il conclut à l'inaction, que l'inaction est le meilleur des choix, au moins il a fait une analyse qui prenait en compte l'incertitude. Donc les scénarios et la décision robuste avec des scénarios, c'est une des façons de prendre en compte l'incertitude. Et je propose de voir la robustesse comme une propriété mathématique d'une théorie de la décision qui dit que la décision reste acceptable dans tous les scénarios. Donc c'est une théorie qui se place dans un système où il y a des scénarios. Et donc quelque part, le GIEC, enfin, il propose aux décideurs qui réfléchissent à l'adaptation au changement climatique ce genre de procédure, c'est-à-dire vous considérez plusieurs scénarios possibles. Est-ce que ça ne va pas beaucoup se réchauffer? Est-ce que ça va beaucoup se réchauffer? Vous considérez vos options stratégiques et vous essayez d'en prendre une qui est robuste, c'est-à-dire qui reste acceptable dans les trois scénarios, enfin dans les trois ou les quatre scénarios que vous pensez plausibles. Le GIEC donc produit des scénarios. Entre le quatrième et le cinquième rapport, il y a un changement de méthode pour ces scénarios. Dans le quatrième rapport, c'était une approche séquentielle où c'était vraiment la théorie des scénarios qui avait été appliquée au sens comme elle est faite dans le business. C'est-à-dire d'abord, on décrit des scénarios socio-économiques comme étant des paragraphes narratifs et derrière, on en tire des conséquences de modélisation. Et pour le cinquième rapport, c'est une approche parallèle où on est parti sur des RCP, des chemins de concentration. Et donc à ce moment-là, à partir de ces chemins de concentration, des niveaux de forçage radiatif, les climatologues, ils ont pu procéder directement à leur modèle, puisque les économistes, les technico-économistes, eux, ils sont un peu obligés de faire tourner leur modèle en mode inversé. Donc oui, c'est la modélisation inverse pour correspondre au scénario prescrit. Et donc ce changement de méthode, ça correspond à un changement aussi de nature des scénarios, puisque au quatrième rapport, les scénarios, ils étaient complètement exploratoires, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en compte les politiques climatiques. Et au cinquième rapport, on est parti des objectifs de long terme pour déterminer les scénarios. Et donc ça impose évidemment d'utiliser les modèles inverses. Par contre, sur le fond, finalement, il n'y a pas de changement puisque l'état du monde et les perspectives énergétiques, enfin de développement du système énergétique, n'ont pas vraiment radicalement changé. Bon, d'accord, on a pris 20 ans, enfin 10-15 ans de décalage sur la courbe, mais il y a toujours des options hautes et des options basses qui sont ouvertes. Donc finalement, on est passé de ce graphe-ci, pour le S3, à ce graphe-là. En plus, c'est un peu les mêmes modèles conservés. Et donc la nouveauté, c'est quand même que maintenant, comme on a pas mal tardé, on est resté sur la trajectoire de référence, donc si on veut aller à un objectif ambitieux, un objectif qui était considéré comme ambitieux autrefois, qui est maintenant considéré comme très ambitieux, on est obligé de penser à faire des émissions négatives. Donc pour résumer, je voudrais dire que les probabilités, c'est pas la logique de la science. Si on entend science comme je l'entends, les probabilités, ça suppose qu'on peut avoir une description exhaustive des états du monde. En plus, mutuellement exclusif. Après, il ne faut pas non plus remplacer les probabilités par les probabilités ambiguës et dire on va arriver à tout faire avec les probabilités ambiguës et les probabilités imprécises. Ben non, ça reste quand même des modèles de la connaissance, mais la connaissance, C'est bien plus que ça, c'est des articles, des théories. On ne peut pas tout mettre dans des modèles. Mais au moins, on a déjà dépassé la logique des probabilités et d'essayer de faire croire qu'on va tout faire avec des probabilités. Et pour les scénarios, c'est bien plus que la remise en cause du modèle de décision standard et de le remplacer par un modèle de décision robuste. Les scénarios, ça donne un langage commun, ça aide à coordonner la recherche. C'est même d'abord pour ça qu'ils sont faits, les scénarios GIEC. Ça clarifie énormément la communication externe, donc comme ça tout le monde présente les mêmes résultats, on sait de quoi on parle. Et ça ouvre à la gestion des dimensions humaines et sociales de l'ignorance. Et donc pour terminer, trois questions sur ce sujet. Donc par exemple, les risques locaux associés aux grands équipements pour la transition énergétique, donc je pense au parc éolien, au stockage du CO2, sont-ils vendables aux riverains? Donc là j'ai mis vendable parce que c'était pour provoquer un peu, c'est souvent le genre de question qu'on adresse aux sciences sociales, comme si on confondait un peu les chercheurs avec les consultants. Mais bon, il y a quand même des recherches intéressantes en théorie sur la gouvernance, quand même. Après, j'ai l'impression, bon ça c'est une idée personnelle, que l'incertitude sur la valeur sociale du carbone, ça devrait remplacer l'incertitude sur la sensibilité climatique. Donc je suis désolé pour tous les climatologues, mais pour les politiques, enfin pour les investissements, et faire quelque chose contre le changement climatique, ce serait quand même plus important de savoir quelle est la trajectoire qu'on va donner au prix du CO2, finalement. Et donc cette variable, elle pourrait devenir une variable de communication plus importante entre les experts et les décideurs que la sensibilité climatique. Bon, la sensibilité climatique, on a vu, c'est grave, parce que, enfin, je veux dire, elle a servi à communiquer le message. Maintenant, je pense que même si on prend le meilleur des cas de sensibilité climatique, on voit que le problème est très grave. Et après, le troisième le point qui est assez délicat, c'est le GIEC peut-il parler d'expertise sciences et société? C'est-à-dire, le GIEC, il est assez réflexif par rapport à lui-même, des rapports sur l'autre. Souvent, ça dit, bon, voilà, là, au rapport précédent, on a vu ça. Et maintenant, on va voir ça, on a ajouté, on a retiré, parce que la littérature a ajouté et retiré. Par contre, c'est assez délicat pour le GIEC de parler de la co-construction de la science et de la co-construction de la politique climatique justement avec le rôle du GIEC lui-même. Donc c'est trois questions en exemple qui montrent que l'incertitude, c'est pas que de l'incertitude au sens de l'erreur. Voilà. Merci.
Merci, Lynn. Des questions?
Dans le deuxième groupe de travail de GIEC, on commence à expérimenter avec le langage de certitude ou incertitude. Et il est clair que dans un chapitre et un autre, il y a des différences d'appréciation des consignes. Est-ce que tu vois ça comme un processus un peu sociologique ou est-ce qu'il faut intervenir sur... je dirais pas des désaccords, mais un manque de cohérence entre les différents chapitres ou les différents groupes de scientifiques en termes d'appréciation de ces consignes.
Alors, on est sur un processus itératif où d'abord il y a le moment où on rédige le rapport. Donc là, c'est pas tellement le moment de modifier les consignes. Et on regarde si les consignes sont les processus sont assez clairs et les divergences s'expriment naturellement. Donc le Le but, c'est d'avoir des consignes qui conviennent à tout le monde. Donc, c'est pas de... Enfin, du moins, dans l'article qu'on a publié sur Agreeing to Disagree, la conclusion, c'était qu'on ne pouvait pas forcer les gens qui sont des experts dans leur discipline à adopter les critères de qualité de la connaissance et donc les critères de validation de l'incertitude d'une autre discipline. Donc il faut pas, la réponse est non quoi.
Oui, est-ce que vous pourriez préciser, oui, Marie-Hélène Vergotte, à Grosup Dijon, est-ce que vous pourriez un petit peu préciser votre pensée sur cette valeur sociale du carbone? Revenir un petit peu sur en quoi elle devient plus critique que l'incertitude sur la sensibilité climatique. Enfin voilà, incertitude sur la valeur sociale du carbone et incertitude sur la sensibilité climatique.
Oui. Alors, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on est parti en 1990 d'un premier rapport où c'était vraiment les lanceurs d'alerte. Et donc, le lancement, c'était une question de science du climat. Et aujourd'hui, l'action est engagée. Et même si elle est engagée inégalement dans les différentes régions du monde, le problème, c'est de plus en plus de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et pas tellement de savoir s'il faut faire quelque chose. Et la valeur sociale du carbone, c'est... Quelque part, c'est comme la sensibilité climatique. C'est un levier qui dit à quel point c'est grave et qu'est-ce que c'est urgent à quel point c'est urgent d'agir. Mais c'est un levier qui est quand même immédiatement perceptible par les décideurs économiques comme vous et moi, par exemple, puisque c'est inclus dans le prix. Des biens où ça pourrait l'être.
On retrouve le même type de problématique quand on s'engage localement à faire de la prévision avec les acteurs, d'essayer d'évaluer avec eux les incertitudes. Est-ce que sur cette thématique-là, le GIEC se positionnerait éventuellement comme un fournisseur de services climatiques, c'est-à-dire nous aider sur des problématiques similaires à développer ce genre de marche avec les acteurs territoriaux ?
J'ai envie de répondre non, mais c'est pas son rôle, mais tu peux peut-être répondre.
Non, le concept de service climatique, j'attends avec impatience le nouveau rapport pour en savoir plus à ce sujet. Et je suis d'accord que c'est pas le rôle du GIEC, mais que ça, il y a quand même des interrogations sur qu'est-ce que devrait être le rôle du GIEC.
Non, un rôle de assessment, je ne sais jamais trop le traduire en français. Comment tu dis ? Évaluation, oui, enfin c'est une forme anglaise, donc j'ai du mal à bien trouver le mot en français. Et non, ce n'est pas de fournir un service. Par contre, ça fournit toute une base de connaissances qui peut être utile. Mais c'est pas.
C'est un service méthodologique, moi, nous former à la pratique de. Pour le faire à d'autres échelles.
Ah oui. Alors, si je peux répondre, il y a toute une branche du GIEC qui est occultée dans ce genre d'arène. C'est les guidelines. C'est la partie du GIEC qui s'occupe de comptabilité carbone, de comptabilité gaz à effet de serre et de méthodologie. C'est une des parties les plus importantes. Enfin, c'est un des rôles les plus importants parce que donner un cadre comptable à quelque chose, c'est donner une visibilité à cette chose. Donc c'est comme quand on taxe quelque chose, c'est là qu'on commence à voir que ça existe et à pouvoir le mesurer. Et donc, c'est peut-être de ce côté-là du GIEC qu'il faudrait regarder pour répondre à votre question. Le rapport sur les méthodologies en guidelines.
Sinon, j'avais un point quand tu disais donc la certitude, en fait, c'était surtout pour une vision d'erreur. Mais en fait, je pense que ça a un rôle extrêmement fort, en particulier dans les humains décideurs, comme tu le mentionnais, sur l'aspect consensus, c'est-à-dire que. D'ailleurs, il faut voir les discussions qu'il y a dans l'acceptation du résumé aux décideurs. Ça porte beaucoup sur est-ce qu'on va vraiment mettre, quel point on va mettre au choix de. Enfin, il y a eu des points où, c'est par exemple, le choix de mettre very likely pour le changement de température attribuable aux activités humaines a été pas mal discuté et c'est un point sensible pour le consensus et ensuite la décision d'action.
Oui, tout à fait. Je pense que les guidance notes sur l'incertitude, elles sont bien à se limiter à cet aspect-là de l'ignorance. Et qu'après, aller chercher l'incertitude comme objet, le risque comme objet social, il ne faut peut-être pas chercher à l'harmoniser au niveau des trois groupes de travail.
Bien, merci. Merci. Questions.